La locale, vous écoutez Radio BLV 93.6, bienvenue dans La locale. Bonjour Karina.
Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
La locale, c'est votre rendez-vous d'infos quotidien du mardi au jeudi, avec parfois il n'y a pas, comme jeudi dernier et comme jeudi prochain, mais on en reparlera. Au sommaire de cette locale du mardi 8 décembre, Karina, qu'est-ce qu'on leur propose?
De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, au sommaire de cette locale, on va commencer par parler de la situation des commerces en Drôme et les aides spécifiques avec Chantal Genevoix, manager de projet TPE Commerce Tourisme à la CCI de la Drôme. Ensuite, je partagerai quelques brèves avec vous. Et puis, on aura au téléphone Luc Sotiras, du directeur du Train Théâtre, pour parler de la réouverture.
En principe, si tout va bien.
En principe, si tout se passe bien. Et puis, pour finir, on parlera avec l'AFPA Drôme Ardèche et la mission locale Aglo et territoire du Valentinois pour parler du dispositif La Promo 16-18.
Merci Karina. La locale, donc comme tu l'annonçais Karina, notre premier rendez-vous, c'est avec Chantal Genevoix, manager de projet TPE Commerce Tourisme à la CCI de la Drôme. Bonjour Chantal.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Chantal, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous. L'e-commerce, on en a beaucoup parlé ce dernier mois et puis depuis le début de l'année d'ailleurs, hein, depuis le premier confinement, on a dit beaucoup de choses aussi, du pire et du meilleur. Aujourd'hui, les commerces ont réouvert en Drôme comme un peu partout. Certains commerces, la majorité des commerces. Est-ce que vous, à la CCI, vous avez vu depuis ce début d'année venir des commerçants que vous n'aviez pas forcément d'ailleurs l'habitude de venir de voir, qui vous ont appelé, qui vous ont sollicité pour avoir des renseignements, pour avoir des aides, des explications, etc.
Oui, tout à fait. Depuis le début de l'année, nous avons eu beaucoup d'appels d'entreprises, hein, commerciales au sens large, et prestataires de services, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi. Mm-hmm. Des fois, des services à la personne. Et alors, très sollicités, effectivement, sur tous les dispositifs d'aide, notamment sur le début d'année. Et puis après, dans ces périodes-là, sur cette fin d'année, effectivement, sur aussi les dispositifs d'accompagnement qui sont plus tournés sur le numérique. Sachant que je ferai peut-être une petite distinction avec toutes les entreprises qui aujourd'hui sont encore fermées, hein, toute la restauration, le tourisme, les gens de l'événementiel, qui sont encore dans cette problématique de trouver les dispositifs d'accompagnement qui vont leur permettre de maintenir, on espère, jusqu'au 20 janvier pour la réouverture.
Bien sûr. Ben, souhaitons-le et souhaitons que ça soit effectivement... Déjà le 20 janvier, c'est encore très très long et... On espère que ce sera vraiment le 20 janvier et pas après. Vous venez de parler des aides, des différentes aides. Alors, il y a les aides nationales et puis il y a des aides régionales, donc spécifiques à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ces différentes aides?
Bah, tout à fait. Alors, on va être assez rapide, hein, parce que on va dire que le portefeuille d'aide est relativement large. Donc c'est vrai que l'État, et on en a beaucoup entendu parler, porte des dispositifs qui sont du type le fonds de solidarité, l'activité partielle, hein, qui passe aussi sur de l'activité partielle qui peut être maintenant de longue durée, donc qui peut permettre à des entreprises de, voilà, d'avoir, d'accompagner leurs salariés sur plus de temps. Les mesures sociales, bien sûr, les prêts garantis par l'État, voilà, ce sont des choses, je pense, qui ont beaucoup été abordées parce que déjà présentes lors du premier confinement. Et après, sur le niveau régional, sur ce, effectivement, ce deuxième confinement, une des particularités, c'est qu'il y a une grande orientation qui se fait sur le volet numérique. Donc déjà par de l'aide pour accompagner les entreprises qui veulent développer, on va dire, le commerce, leur commerce en ligne, hein, leur façon de faire du commerce en ligne, voilà, avec une possibilité d'obtenir une aide qui peut aller jusqu'à 1 500 € selon les types de projets. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ces derniers jours ont été mis en place aussi l'annuaire, je pense que vous en avez entendu parler, sur J'achète dans ma région, qui recense les commerçants, voilà, qui permet à un moment donné aux consommateurs d'aller aussi trouver les commerçants qui peuvent faire de la vente en ligne autour de chez soi. Et après, on a d'autres aides, effectivement, aussi, qui peuvent favoriser de l'investissement quand je fais aussi du click and collect. Mais là, on est dans de l'investissement un peu plus lourd parce que parfois, il faut adapter son magasin, il faut avoir des véhicules de livraison. On a tous ces types de voilà d'investissements qui, aujourd'hui, peuvent être pris en compte par la région et qui ont l'intérêt aussi d'être rétroactifs pour les entreprises au 1er janvier 2020.
D'accord, donc toutes celles qui ont fait des investissements sur l'année pourront bénéficier de cette aide.
C'est ça, tout à fait. Donc il faut reprendre, voilà, tout reprendre les investissements qui ont pu être réalisés, qui portent dans ce sens-là, et aller solliciter la région sur leurs portails qui sont Ambition Éco. Voilà. Et en parallèle, après, il y a toute une procédure tout un accompagnement qui se met en place sur le numérique au travers d'un plan de relance, alors qui est à la fois État, région, qui englobe les chambres consulaires, chambres de métiers, pour accompagner les chefs d'entreprise. Parce que on a le volet outils, mais il faut aussi après accompagner dans la montée en compétences, dans la façon de travailler le numérique le mieux possible.
Oui, parce que c'est pas parce qu'on est un excellent professionnel dans sa partie qu'on maîtrise nécessairement les outils numériques et les réseaux sociaux aussi, parce que ça va avec souvent. Donc on est de toute façon, on fait de toute façon appel à des prestataires extérieurs. Est-ce qu'il y a eu un comment dire? Dans les aides, il y a une partie d'aide financière, mais est-ce qu'il y a aussi une espèce de petit guide d'accompagnement véritable avec des listes de, comment dire, de prestataires, etc.
Oui, tout à fait. On peut retrouver là sur le campus de ma région, effectivement, des listes de prestataires qui sont présents sur l'ensemble d'ailleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui peuvent accompagner les entreprises. Et après, ce qu'il faut aussi bien penser en amont, c'est que les entreprises doivent porter une certaine réflexion pour savoir vers quel type de numérique elles veulent s'orienter. Est-ce que ce sont des réseaux sociaux? Est-ce que c'est du site internet? C'est multiple et elles ne peuvent pas aller sur tout, parce qu'on a aussi des problématiques de temps, hein, parce que souvent les magasins restent ouverts, donc il faut gérer à la fois un magasin ouvert et aussi une vente quelque part 24 heures sur 24, par ailleurs. Donc il faut apprendre à gérer tout ça. Donc c'est vrai que c'est un changement aussi de fonctionnement.
Bah, c'est un changement de fonctionnement, puis ça va au-delà, parce que vous le dites, vous venez de le dire, c'est que c'est de la vente quasiment 24 heures sur 24. Qu'on peut pas. Enfin, il y a un moment où les gens dorment aussi, où les gens vivent quand même.
Et tout à fait.
Et c'est problème. Ouais, c'est très compliqué parce que les moyens ne sont pas là pour pouvoir embaucher quelqu'un, parce qu'il faudrait quasiment une personne qui soit dédiée à ce type de vente. Vous avez des remontées de d'interrogations de cette nature?
Oui, tout à fait. Ce sont des interrogations qui se posent quand, effectivement, la partie vente en ligne prend de l'ampleur, parce qu'elle va demander du temps. Et à partir de là, c'est l'articulation de ce temps qui devient compliquée, puisque les gens ne vont pas, c'est ce que vous disiez, ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7. Donc, d'où l'importance d'avoir cette réflexion en amont. Se dire, est-ce que je vais complètement sur la vente en ligne? Est-ce que je le réserve à une partie de mes produits, à une certaine gamme, pour ne pas non plus, effectivement, démultiplier le temps de travail? Voilà. C'est un vrai enjeu, hein, dans la mise en place de ce type de vente.
Et donc, l'accompagnement, il se fait aussi à ce niveau-là, à l'aide à la prise de décision?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut vraiment dans la réflexion, plus qu'on est plus dans la stratégie en se disant ben, où est-ce que vous voulez aller, du coup, quels moyens allez-vous mettre en place? Et ce n'est pas que du moyen technique, c'est des moyens humains. Et à un moment donné, de se dire, voilà, la capacité humaine, elle est là, on va faire avec cette capacité et utiliser quels moyens. Voilà. Effectivement, on a eu une période de avec le notamment le confinement, là, le dernier, de frénésie sur la vente en ligne. Je pense qu'avec la reprise des activités, les chefs d'entreprise vont prendre un petit peu de recul et se repositionner sur cette vente en ligne, mais de manière peut-être un peu plus coordonnée.
Mmh. Oui, que prendre le recul, c'est un peu le maître mot, et que c'est ce qui nous manque le plus cruellement actuellement, de pouvoir effectivement prendre un peu de recul, se poser et réfléchir, parce qu'on est tout le temps en réaction et ça, bon, c'est d'abord c'est usant physiquement et psychologiquement, et puis c'est parfois un peu contre-productif. Juste avant, Karina, tu as une question.
Moi, je me demandais si vous arrivez à savoir si beaucoup de commerces vont fermer définitivement.
Oh là, c'est impossible à dire. Aujourd'hui, on est dans la période où effectivement, les gens qui étaient fermés, tous les commerces qui étaient fermés au mois de novembre, le mois de décembre, c'est vraiment un vrai enjeu pour eux. Donc la réussite de la fin d'année, c'est un enjeu pour beaucoup d'entreprises, parce que c'est là où on va pouvoir récupérer, hein, parce qu'ils ne referont jamais la totalité du chiffre, mais récupérer un peu de chiffre d'affaires. Et surtout se dire, faut que les consommateurs reviennent vers eux. C'est là le vrai enjeu. Donc là, aujourd'hui, on n'est qu'au début du mois de décembre. Et puis pour ceux qui sont encore fermés, effectivement, ce sera encore plus complexe, voilà, de dire à un moment donné, je vais avoir cette capacité de réouvrir ou cette envie de réouvrir. Parce que pour certains, on sent que l'envie est des fois... Voilà, c'est devenu plus difficile.
L'envie est émoussée, oui, oui.
Oui.
Je pense qu'on le ressent, toutes et tous. D'ailleurs, on va faire un point psy jeudi matin sur le sujet de ce deuxième confinement qui est extrêmement différent, et on sent des répercussions psychologiques beaucoup plus importantes au fur et à mesure, et d'autant plus pour celles et ceux qui effectivement en ont pâti. Et je pense aux restaurateurs et restauratrices notamment, qui on voit d'ores et déjà effectivement des pancartes fermées, où voilà, on ne réouvrira pas, et que c'est une réalité qu'il faut prendre en compte et qui va être à gérer sur le début 2021, pardon.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour information vis-à-vis des chefs d'entreprise qui peuvent se sentir perdus et après plus mal psychologiquement, voilà, il y a des cellules d'écoute, bon, qui sont nationales mais qui redescendent sur chaque département, qui ont été mis en place. Donc voilà, on communique nous sur le numéro à des chefs d'entreprise qui auraient besoin à des moments de s'exprimer, quoi, de parler sur leurs ressentis. Cette cellule d'écoute, elle est là pour ça. Ce sont des psychologues qui sont au bout. Et voilà, et qui accueille la parole de ceux qui sont dans des périodes qui sont très très difficiles et dures à vivre.
On peut peut-être le redonner, ce numéro, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc le numéro de la cellule d'écoute, c'est le 08 05 65 50 50. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à appeler à la moindre coup de mou, on va dire comme ça. Hein. Oui. Il faut appeler. Il y a des gens au bout qui sont des spécialistes et ils sont là pour ça.
Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été avec nous et de nous avoir permis de faire ce point. Et puis, ben, bon courage à vous toutes et tous aussi de l'équipe de la CCI. Et on va continuer à prioriser nos commerces de proximité, quels qu'ils soient.
Voilà, mais merci à vous aussi pour ce petit temps en échange sur le commerce.
Merci, merci, au revoir.
Bonne journée.
Au revoir, bonne journée.
Et bon courage aussi aux commerçants qui nous écoutent, d'ailleurs.
Absolument. Alors, Karina, quelques infos.
Quelques informations, et oui.
On est là pour ça. Donc, je commence par une information de Jardine en Vie qui organise un marché de Noël à la ferme. Alors là, ça a l'air vraiment génial. Jeudi 17 décembre, donc jeudi, voilà, dans la semaine prochaine, de 17h à 20h avec plusieurs artisans locaux et la map de Bourg-les-Valence. Donc, rendez-vous à la ferme, 429 route des Chaux, Bourg-les-Valence. Sinon, la LPO a une idée originale et qui fait plaisir en cette période de Noël. Écrivez au Père Noël. Le Père Noël nous a contactés, dit la LPO. Il se fait beaucoup de soucis avec le réchauffement climatique. Il a peur de devoir acheter des roues pour son traîneau, car il y a de moins en moins de neige en Laponie. Donc ça lui a donné une idée. Dans sa hotte, il y a beaucoup de jouets, de livres, de tablettes, etc. Et il voudrait bien aussi participer à la protection de la nature, mais ne sait par où commencer. Donc vous pouvez l'aider en lui envoyant une petite lettre avec un dessin ou pas pour lui dire quel animal sauvage ou quel coin de nature vous voudriez protéger. L'adresse où envoyer votre lettre, c'est Père Noël, LPO Aura Dromardèche, 18 place Génicieux, 26 120 Chabeuil. Soyez sûr qu'il ne vous oubliera pas.
Et même si on est grand, on a le droit.
Oui, je pense que c'est ouvert à tous, toutes et tous. Les animaux, bon, malheureusement, ne pourront pas le faire, mais on le fait à leur place. Et puis, au Clévaux, c'est les derniers jours pour l'exposition Astronautes. Donc, profitez-en. C'est une exposition conçue par la Cité de l'Espace de Toulouse, qui parle donc de conquête spatiale. À quoi ressemble la vie des astronautes? Venez partager leur drôle de vie, découvrez avec eux des expériences renversantes. Donc, c'est une exposition qui propose un parcours qui combine à la fois découverte scientifique et animation pour tous autour de trois grands thèmes. Donc d'abord, l'espace, une destination de l'extrême où vous pourrez partir à la découverte du vide spatial. Ensuite, la station spatiale, la base et la maison de l'astronaute. Et puis le troisième thème, le quotidien, vivre dans une station spatiale, un quotidien surprenant où rien ne se passe comme sur Terre. Les infos pratiques, c'est donc du 19 au 29 décembre, il reste donc encore quelques jours. Vous pouvez y aller tous les jours à 10h, 14h ou 16h, hors 25 décembre. Et la durée de la visite, c'est 1h30. 5€ pour les adultes, 3€ pour les enfants. Et puis voilà, à partir de 8 ans, port du masque obligatoire, réservation aussi obligatoire, en privilégiant une inscription par mail administration@lesclevaux.com. C'est tout, je dirais. Est-ce que tu veux encore des informations, Sylvie ?
Eh bien, on peut peut-être redonner un petit clin d'œil matériothèque.
Et oui, parce que la matériothèque continue d'être ouverte. En fait, on l'oublie parce que le Valence Atelier Libre, lui, est fermé. Ses ateliers sont à l'arrêt. Mais la matériothèque reste ouverte. Donc, vous pouvez y aller le mercredi et le samedi de 10h à 18h. Et ils ont un nouveau numéro. Donc, ça, c'est important de le partager aussi. Si vous voulez les joindre, c'est le 06 66 39 77 04. Vous pouvez les appeler pour savoir ce qu'ils ont et si ça correspond à ce que vous cherchez, sachant qu'ils ont énormément de matériaux et il y a vraiment de quoi faire pour les travaux à la maison. Voilà.
Pour les travaux et puis même pour des idées cadeaux.
Ah, effectivement, c'est une bonne idée.
Alors, décidément, on est un petit peu maudit avec Luc du Train Théâtre, mais on va arriver à l'avoir un moment ou un autre. On va inverser. Voilà, on va parler tout de suite du dispositif La Promo 16-18 qui a démarré en novembre et qui est porté par la mission locale et l'AFPA. Valérie Soulier-Guédamour, directrice des centres AFPA Dromardèche, Muriel Pruitt, formatrice en préinsertion pour l'AFPA Valence, et Régis Poncic, directeur de la mission locale Aglo et territoire du Valentinois, sont venus nous présenter ce dispositif qui entre dans l'obligation de formation qui elle-même s'inscrit dans le cadre plus général du plan de lutte contre la pauvreté. Mais que recouvre cette obligation de formation ?
L'obligation de formation, c'est quelque chose de très important pour nous en tant que service public de l'emploi. La base vient d'une loi qui est passée en 2019 qui précisait que maintenant, l'obligation de formation ou d'être à l'école passe de 16 ans à 18 ans, ce qui est quand même une forte évolution. Et par rapport à ça, l'État a choisi de mettre en place des dispositifs pour le suivi et l'accompagnement plus particulier de beaucoup de jeunes, et notamment des personnes dites décrocheurs. En France, l'année dernière, vous aviez à peu près 70 000 décrocheurs, donc ce n'est pas négligeable. À ce titre, les missions locales sont lancées sur le sujet en augmentant leur force de frappe pour être au plus près de l'accompagnement, pas de l'aide, mais de l'accompagnement. Et à ce titre, associé avec les centres d'information et d'orientation de l'éducation nationale, nous mettons en place une vraie recherche de ces personnes et pour pouvoir leur proposer notre accompagnement.
Alors effectivement, on est dans le cadre du plan de relance pour la jeunesse, un jeune, une solution, qui vise à permettre aux jeunes éloignés de l'emploi de se construire un avenir. Les missions locales, c'est leur travail d'accompagner les jeunes depuis fort longtemps. Aujourd'hui, dans ce dispositif particulier, promo 16-18, elles sont, je dirais, presque la porte d'entrée.
Effectivement, on peut nous voir comme une porte d'entrée. Moi, je préciserais plutôt comme des partenaires, parce que l'État a bien précisé dans ce qu'il a préparé que sur le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 70 000, eh bien vous en avez potentiellement 35 000 qui passeraient par l'AFPA, par ce projet innovant qui permet aux jeunes, mais ce qui nous intéresse nous aussi, c'est que ça nous permet d'être en contact aussi avec les parents, puisque lors de la première journée, des premiers contacts, quand on leur fait une information collective, ils viennent avec leurs parents. Et ça, c'est une force pour rassurer le jeune, mais aussi les parents, sur ce choix qui n'est pas anodin, parce que forcément, ils s'engagent sur cet accompagnement.
La promo 16-18, c'est une vraie démarche de la part du jeune et de la part aussi de tous les encadrants. Alors, on a parlé de l'AFPA. Valérie, quel est le rôle de l'AFPA exactement dans ce dispositif ?
Alors, l'AFPA, en partenariat avec les missions locales, va proposer aux jeunes et à leurs familles, du coup, pour faire le lien à ce qu'on se disait précédemment, un accompagnement qui va être différent. L'objectif, c'est vraiment leur proposer un parcours qui est d'une durée déterminée et de les accompagner sur leurs réflexions à travers tout un tas d'outils qui ne sont pas les outils classiques. Puisque ce que nous renvoient les jeunes, souvent, ils sont décrocheurs, donc ils sont hors du système scolaire. Et leur positionnement est de dire « je ne veux pas retrouver ce cadre-là ». À tort ou à raison, c'est leur souhait aujourd'hui. Et très souvent, ils sont un peu perdus aussi. Donc, c'est leur proposer un cadre, un lieu de vie, un lieu d'échange, de partage et un travail sur leur projet, leur envie et d'être à leur côté.
Vous avez parlé de lieu de vie parce que il y a cette dimension-là aussi d'autonomiser le jeune. Alors on parle d'émancipation, autonomie, c'est vraiment une des bases en tous les cas pour se construire. Et dans ce dispositif, il y a ce volet qui est inclus.
Oui, alors c'est un dispositif qui se construit autour d'un projet collectif. On les fait travailler, c'est le rôle des formateurs et des intervenants, sur un projet d'ensemble pour qu'ils apprennent cette autonomie-là, à la fois sur aller chercher des partenaires, monter un projet, travailler avec des partenaires, avec des acteurs du territoire. Et dans l'autonomie, va se mettre en place aussi une démarche de mobilité, de leur proposer, dans le cadre du parcours, de partir 15 jours. Quand je dis partir, c'est quitter le territoire sur lequel ils sont, puisque l'AFPA ouvre des centres à des lieux déterminés. Ils ne vont pas partir comme ça avec un accompagnement. Le but est qu'ils s'éloignent de leur lieu de vie pendant 15 jours pour aller construire quelque chose ensemble et vivre quelque chose ensemble.
Pour être le plus concret possible, le jeune qui est passé par la mission locale arrive à l'AFPA et là entre dans le vif du dispositif qui est très séquencé, il me semble.
Alors, dans la phase réunion d'information, cette réunion d'information a lieu tous les lundis en fin de journée à la mission locale du Valentinois. Sont présents les conseillers mission locale et la formatrice qui est sur le dispositif. Donc, on explique aux jeunes et aux parents le dispositif. Après, il y a une phase d'engagement de leur part. Il faut que la famille et le jeune disent OK. Une fois qu'on a ça, on rentre à peu près tous les 15 jours des groupes, 15 jours, 3 semaines. et la personne donc rentre sur le dispositif. Et la première semaine est une semaine de travail sur le projet, de validation, de travail en collectif aussi. On a dans le groupe qui est rentré lundi dernier, on a des gens qui ont été très isolés pendant de longs mois. Donc c'est vraiment un travail sur le collectif autour d'un projet, mais la formatrice Muriel pourra vous en parler. Il y a vraiment ça. Après ça, ils doivent s'engager, vraiment dire bah, « Ok, ça m'intéresse ». À ce stade-là, ils peuvent dire non. C'est tout l'intérêt aussi de la démarche, c'est de ne pas être dans un système d'obligation. À l'issue, ils peuvent dire oui ou non. Ils ont 15 jours de réflexion. Et après, il y a l'étape voyage pendant 15 jours. Et après ça, ils rentrent dans une logique d'accompagnement 8 semaines. Donc, on voit que dès la première réunion d'information, il y a la possibilité de dire bah, « c'est pas ce que je souhaite faire ». Par contre, l'objectif pour nous, c'est pouvoir leur présenter en disant « ça sera autrement, ça se fera autrement que des cours en salle, etc.
Mmh. » Alors, je voulais juste rajouter qu'on est vraiment dans une logique avec l'outil AFPA et l'outil mission locale, dans l'orientation, la formation, le savoir-être et un objectif vers l'emploi. Mais il y a aussi une logique qui est très intéressante de parcours. C'est-à-dire que le jeune passe par la mission locale, va vers l'AFPA. S'il trouve des solutions, à ce moment-là, il continue à être accompagné par l'AFPA, mais en même temps aussi par nous s'il y a un besoin. Et s'il n'y a pas de solutions qui sont trouvées, il y a des dispositifs au sein de la mission locale ou dans d'autres structures qui nous permettront ensuite de faire un chemin pour lui permettre de s'insérer au mieux par rapport à ses appétences, ses compétences et aussi au marché de l'emploi, au bassin d'emploi qui peut lui fournir ou pas un emploi.
Muriel, donc vous êtes formatrice, vous avez déjà accueilli un premier groupe, je crois.
Oui, tout à fait, qui sont rentrés lundi dernier.
Combien de personnes dans le groupe ?
Alors, ils étaient 6 au départ et 5 à l'arrivée.
Quels sont les profils de ces jeunes ?
Des jeunes qui ont des parcours parfois compliqués de vie privée, qui ont des parcours chaotiques au niveau scolaire, qui parfois ont des idées mais ne savent pas par quel chemin y arriver, et surtout qui ne répondent pas au code traditionnel de l'enseignement, qui ont besoin d'un cadre différent, qui ont besoin qu'on réouvre le champ des possibles, qu'on leur redonne confiance en eux, qui ont besoin de croire à la dimension de groupe. Et ça, c'est la première chose qu'ils découvrent quand ils arrivent finalement dans le dispositif, puisque souvent, là, en l'occurrence, ils ne se connaissaient pas avant d'entrer dans le dispositif. Et la plus belle victoire, c'est quand le vendredi matin, ils font les choses à 5 et que chaque fois qu'il en manque un, les 4 autres le cherchent. Et là, je me dis, c'est bon, on a réussi et tout va bien. Ouais. Et c'est vrai qu'à ma grande surprise, la période de réflexion qui s'ensuit de 2 semaines, a déjà été, entre guillemets, mise de côté, puisqu'ils ont demandé à se revoir dès cette semaine, et que les 5 ont déjà dit « go, on y va, quoi ». Donc ouais. C'est vrai que la première semaine, elle est vraiment autour de cette dimension de travail de groupe, de cette dimension de découverte un petit peu. On fait un escape game, on fait énormément de choses en extérieur. On a travaillé la mobilité, mais pas à travers une salle de cours ou quoi que ce soit. On l'a travaillé en mode qu'est-ce que ça m'apporte, en quoi dans ma vie c'est nécessaire. Puis après, bah, comment j'organise une mobilité. Donc là, en l'occurrence, on est allé visiter l'île de la Roche-de-Glun avec pour objectif comment on se déplace quand on habite dans une île et qu'on a 17 ans. Qu'est-ce qu'on trouve comme moyen de locomotion. Donc c'était un jeu de piste avec plein de choses un peu sympas. Ils ont cherché un soldat américain, ils sont partis comme des fous pour en arriver à me dire « mais c'est pas possible madame, il est mort ». Bah oui, forcément, c'est une stèle, mais il est quand même venu en avion à un moment. Donc fallait trouver l'avion, bon voilà. Mais je veux dire que ce qui était chouette, c'était vraiment de voir à quel point il y avait de l'envie. Voilà, il y avait de l'envie, il y avait, je pense, plein de choses qui se sont autorisées à dire. Et puis voilà, donc on a fait des découvertes aussi artistiques, et ça c'était aussi d'autres témoignages de vie qui étaient très motivants pour eux.
Moi, ce que j'entends au travers de ça, c'est que avant de pouvoir réfléchir à un parcours éventuel professionnel ou de formation, il faut d'abord se reconnecter avec soi-même. Il faut se réhabituer à vivre avec les autres ou parfois le découvrir parce qu'ils l'ont complètement perdu et que ça, c'est fondamental dans une société. C'est vraiment ce qui fait sens. Et qu'on se rend compte qu'en fait, très rapidement, il suffit de leur donner les bons outils et tout ça reprend sa place.
L'avantage de la ludopédagogie, c'est que pour avancer, il faut évoluer en équipe. Donc, c'est ce qui s'est passé dans l'Escape Game, c'est ce qui s'est passé dans tous les défis qu'ils ont fait cette semaine. Donc, forcément, ils étaient plus forts à 5 que tout seuls chaque fois qu'ils sont allés négocier ou découvrir des choses. Et forcément, ça a pris un sens pour eux. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu dans leurs échanges ce week-end sur les réseaux sociaux, et où je me suis dit, notre plus belle force aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'ils vont commencer, eux, à parler du dispositif entre eux, et que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, les jeunes vont y venir. Alors, c'est le point de départ, donc il faut du temps pour ça, mais cette viralité-là, moi, j'y crois énormément, et je pense que eux, en termes de groupe, ils ont forcément compris que c'était un groupe. Ils sont arrivés à 1, ils sont repartis à 5. Et du coup, ils s'autorisent des choses aussi. Et leur projet professionnel, vu que pour le fait, ils partent d'eux-mêmes et non plus du métier à la base, on ne leur dit pas « ça serait bien de devenir soudeur ». On leur dit plutôt « qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça, quand tu sens cette odeur, quand tu touches cette matière, qu'est-ce que tu ressens ?» Donc forcément, la façon de l'aborder est différente. Donc que ce soit en termes de groupe ou d'évolution de la personne au sein du groupe, forcément, on arrive à des résultats qui sont juste extraordinaires, quoi, et en peu de temps. Donc voilà, il faut voir ce que ça va donner après sur les 15 semaines à venir avec eux.
Ce dispositif, il est mis en place, donc il a démarré là en novembre. Il est parti pour combien de temps ? Les engagements de l'État sont pour combien de temps ?
On est parti sur toute l'année 2021. Avec un projet de reconduction. Mais pour l'instant, nos objectifs sont
sur 2021.
Oui, c'est ça.
Réunion d'information.
Tous les lundis, à partir de 16h jusqu'à 17h. C'est un lieu d'échange. Et ce n'est pas un lieu où on va expliciter le dispositif avec la première slide, la première diapo. Voilà, c'est vraiment permettre aux personnes de s'interroger. Et si je peux me permettre, je vais revenir sur ce que disait Madame Pouit. C'est... ce 5 se crée parce que ce groupe humain de 5 se crée parce qu'ils ont repris confiance en eux, dans leur singularité, dans leur personnalité et dans leurs propres compétences. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme, c'est pas parce que vous avez 16 ans ou 17 ans que vous n'êtes pas compétent dans quelque chose. Certains jeunes ne le savent pas, ils sont aidants, par exemple, auprès de leur famille, d'autres. S'occupent de la trésorerie sur un petit groupe de sport ou autre, et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des compétences. Et en reprenant confiance en soi, en se disant « mais ces compétences-là sont importantes », et c'est ce que demandent d'ailleurs beaucoup de patrons à l'heure actuelle, ils ne demandent pas des diplômes, ils demandent simplement un savoir-être et des compétences humaines. Et si on arrive à définir cette humanité et faire comprendre aux jeunes qu'il l'a de façon pleine et entière, tout va bien.
Merci d'avoir été avec nous pour cet aperçu de la promo 16-18, le dispositif pour remobiliser les jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans. Rendez-vous donc tous les lundis à 16h à la mission locale 3 allée Bernard Gangloff à Valence. Merci encore et bonne journée.
Merci, au revoir.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Et après 7 heures, j'espère que vous avez tout bien noté et que si vous avez des jeunes autour de vous, transmettez-leur l'info. C'est vraiment un très chouette dispositif et vous avez pu voir que c'était porté par des gens pleins d'enthousiasme. On retrouve tout de suite Luc Sotiras. Bonjour Luc.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Luc Sotiras, directeur du Train Théâtre de Portes-les-Valence. Luc, on devait se parler la semaine dernière et on se disait, on était tous dans une certaine émotion du fait du décès de Anne Sylvestre, mais aussi joie de se dire le 15 décembre, c'est demain matin. Aujourd'hui, en regardant la une des journaux, on est un petit peu inquiet. Alors, est-ce que toi, tu en sais plus ? Est-ce que vous, salle de spectacle, vous en savez plus ? Est-ce que ce 15 décembre va nous permettre de revenir vers le spectacle vivant ou pas ?
Malheureusement, je suis comme vous, je n'en sais pas plus, même si j'avais déjà des informations hier sur... sur ce qui... Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment d'informations, c'est un sujet.
Voilà,
on va dire. C'est un sujet qui est qui est en discussion pour l'instant. Effectivement, il y a le gouvernement s'était un petit peu non pas engagé, mais avait évoqué un possible déconfinement à partir du 15 si nous avions baissé de façon très significative le nombre de cas positifs. Voilà, on est aujourd'hui, on n'y est pas, manifestement. Donc du coup, il y a de la discussion en ce moment. Moi, je sais que mon syndicat est un petit peu en première ligne par rapport à ça. Et voilà simplement où nous en sommes pour l'instant. Je ne sais pas quand ça va tomber. On attend. Il y a des prises de position d'un certain nombre de personnes, de personnalités qui ont évoqué que c'était pas chez nous. Mais... nous n'étions pas référencés comme des lieux potentiels de contamination. Mmh. Néanmoins, je pense qu'il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de jeu pour décider, quoi.
Alors on va dire que le 15 décembre on va pouvoir retrouver le spectacle vivant. Et alors au Train Théâtre, vous nous avez fabriqué une programmation de fin d'année. Malgré tout, avec différents rendez-vous, donc on peut fais-nous part des rendez-vous qui sont prévus et en se disant que on espère vraiment qu'ils puissent avoir lieu.
Alors les rendez-vous, en fait, très honnêtement, j'étais déjà prévu depuis longtemps, oui. Mais on n'en parlait pas. Voilà. Ça restait. C'était pas du top secret, mais on n'en parlait pas trop pour évidemment pas se trouver dans la situation qu'on a déjà vécue, d'avoir recours de nouveau à d'annulation. Mm-hmm. Alors on s'est dit à la dernière déclaration du président de la République que on avait quand même une petite trajectoire. Bien entendu, on est toujours avec les incertitudes et les guillemets qu'il faut mettre à tout ça, de dire se relance ou pas. Disons que c'est la première fois qu'on avait une espèce de petite trajectoire en disant à partir du 15 décembre il est possible que, et à partir du 20 janvier il est possible que. Voilà, jusqu'à maintenant on n'avait pas eu autant de trajectoires dans le temps à peu près posées. Alors la programmation était calée déjà évidemment depuis un petit moment. Il y a beaucoup de reports. On va attaquer la nouvelle année 21 qui est la saison 20, donc 2021, avec le tome 2, puisque on est parti sur cette idée. Et on rattaque tout de suite, on va tout de suite rattaquer fin début janvier. Et avant, on va quand même finir, on l'espère, avec un spectacle 19 qui est le report d'un spectacle que nous devions avoir au mois de novembre, la création de Claire Engade, parabolique, en chanson, et qui vient prendre la place du spectacle Allegro, l'ensemble du conservatoire, qui, lui, ne peut pas jouer, ne peut pas assurer la prestation. Alors là, pour le coup, simplement parce que il y a beaucoup d'élèves dans cet orchestre, et qui, pendant la période du confinement, n'ont pas pu travailler. Excusez-moi. Et donc, ils n'étaient pas en mesure de présenter ce programme.
Alors, effectivement, Claire Engade, c'est de l'électro-blues qui sent parole.
C'est ça, Disons que Claire est une artiste qu'on suit déjà depuis un petit moment avec le Train Théâtre. C'est une artiste qui avait déjà fait des petites tentatives de première partie, qui a commencé une collaboration avec Étienne Roche, qu'on connaît bien sur le territoire. Et puis, les choses sont portées, nouvelle équipe de musiciens. Et puis ensuite, il y a le Covid de son côté, de notre côté. Enfin voilà, tout un tas de petites choses qui sont venues perturber ce projet. Du coup, on a trouvé une solution, c'est de continuer de l'aider sur sa création. Mais elle se déroule actuellement, le travail préparatoire se déroule à Corbas, chez des collègues du groupe des 20. pour présenter le spectacle, donc le 19. Voilà, les choses se déroulent pas trop mal pour le moment dans ce calendrier. Et enfin, le spectacle qui va clore un peu cette année bien singulière, c'est également un spectacle qui avait déjà été, enfin, qui a été annulé au mois de mai. Un spectacle de nouvelle magie, la 32e compagnie, avec un spectacle qui s'appelle À Vue, qui sont quand même pas des moindres, sont des vice-champions du monde de magie. On est vraiment dans la performance, et comme le nom du spectacle l'indique, c'est À Vue. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'artifice pour masquer, pour cacher. Voilà, tout se passe vraiment devant tout le monde. Et c'est là où ça devient bluffant, c'est qu'on n'y voit quand même rien. Voilà, donc c'est l'idée de faire cette proposition de spectacle, c'est que finalement on se retrouve sur une proposition de spectacle familial, comme on a l'habitude d'en présenter dans le nouveau cirque. Et puis de se dire aussi, maman, zut, on n'a pas pu travailler pendant pratiquement encore 2 mois, là. Mmh. Et bon, on se remet, on a pris un peu sur les vacances traditionnelles que l'équipe prenait à cette période pour présenter ce spectacle. Donc ce sera le 22 et le 23 décembre. Et l'idée, c'est que nous jouerons à 18h30.
D'accord. Et effectivement, un peu de magie en clin d'œil pour cette fin d'année, c'est pas mal, hein, quand même.
Oui.
On espère, on aimerait qu'elle disparaisse comme ça, comme par magie, justement.
C'est ça. On peut le voir de ce côté-là, en effet.
Et pour le Tempo 2, les réservations sont déjà ouvertes. Donc, on peut aller à... Comment ça se passe? Ça se passe plutôt par téléphone et en ligne.
Par téléphone et Internet, en effet. Beaucoup par téléphone et Internet. Pour le moment, on assure une billetterie présentielle, hein, évidemment. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème non plus. On est un petit peu dans cette logique. Ça démarre... Ça démarre doucement, mais je suis plutôt confiant et les premiers résultats sont aussi encourageants. Donc je me dis que si les perspectives, on va dire, de pandémie s'éloignent un petit peu, avec notamment, on l'espère, l'arrivée du vaccin, et puis aussi une prise de conscience un peu de des uns et des autres sur cette propagation, et d'être prudent, continuer d'être prudent, et je pense qu'il faudra continuer à l'être encore un petit moment, peut-être qu'on va pouvoir vivre une fin de saison à peu près normale. Voilà, même si on sera peut-être en jauge réduite à certains moments, voilà, on assurera en tout cas et au mieux la sécurité des spectateurs d'une part sur l'action du bon sens, mais aussi d'autre part sur le respect des règles qu'on va nous imposer.
Bien sûr.
Que je ne connais pas encore vraiment.
Eh bien, écoute, en tous les cas, on souhaite à l'équipe le meilleur, beaucoup d'énergie aussi parce qu'il en faut. Et puis on est obligé de faire court, mais Yves Jamais, Entre deux caisses, Olivia Ruiz, voilà trois par exemple, trois.
Voilà. Thierry Lestien pour finir l'année, pour finir le mois de janvier.
Voilà, donc. Allez sur le site du Train Théâtre, vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup.
Absolument.
Luc, d'avoir
merci
été avec
aussi.
Nous.
Merci.
Et puis, bon courage.
Avec plaisir. Merci et belle journée. Merci. Bon courage à vous aussi.
Au revoir. Souhaitons effectivement que ce 15 décembre soit tenu, maintenu, et pour ce faire, Luc avait raison, c'est que chacun y met un peu du sien, peut-être on va y arriver quand même. Qu'en penses-tu, Karina?
Eh ben, je croise les doigts. En plus, avec ce temps, on n'a qu'une envie, c'est d'être justement dans des salles de spectacle.
Okay. On se retrouve demain. Demain,
oui.
Demain pour la
loc.
Alors, d'abord, demain à 11h pour Dedans Dehors, pour version Karina. Et puis, à midi 15 pour la locale, un petit avant-goût.
Au programme, alors, un micro-trottoir de Léonie qui allait promener le micro de la radio à Camille Vernet, à son lycée. Et on parlera de la Solidaire, qui est une nouvelle recyclerie à Pérou.
Voilà.
Super. Eh bien, merci beaucoup, Karina.
Merci à toi.
À demain.
Bonne journée à tous.
Bonne journée à toutes et à tous.